Le journal, c'est avec vous. Bonjour Kevin Dufraîche.
Bonjour Hélène et bonjour à tous.
Des tests à l'arrivée dans les aéroports et des quarantaines imposées. Plusieurs pays européens remettent en place les restrictions face à la reprise du Covid. En Espagne, les touristes français moins nombreux, mais toujours là. Reportage en Catalogne dès le début de ce journal. Dans le reste de l'actualité, Kevin.
Le coronavirus qui dissuade les touristes donc, mais aussi les juifs de France, ceux qui avaient prévu de s'installer définitivement en Israël. Dans ce journal encore, Emmanuel Macron en cause de la majorité avant les vacances. Des associations alertent sur l'utilisation de logiciels espions par des hommes violents. Ils surveillent les téléphones de leurs compagnes. Et puis, une histoire d'amitié et de vélo au cinéma à la fin de ce journal.
Du ciné aussi ce matin avec notre invité à 7h45, le directeur artistique du Festival du film américain de Deauville. Festival maintenu en septembre. Programmation ciné dans la crise. On parle de tout cela avec Bruno Barde dans 3/4 d'heure. Et puis à 8h20, le féminisme, son évolution, ses différents visages sur fond de polémique. L'une des plus grandes historiennes contemporaines, la pionnière de l'histoire des femmes, Michèle Perrault, sera avec nous dans le grand entretien. Vos questions, chers auditeurs, au 01 45 24 7000 ou sur l'appli France Inter.
France Inter. Pas de reconfinement, non, pas de fermeture des frontières, pour l'instant en tout cas, mais flotte dans l'air européen comme une sensation de déjà-vu ces derniers jours face à la reprise de l'épidémie de coronavirus. Plusieurs pays prennent des mesures de restriction, les tests obligatoires à l'arrivée en France dans les aéroports depuis 16 pays classés rouges, nouvelles mesures de restriction en Belgique depuis hier où il faut de nouveau faire ses courses seul, une demi-heure maximum, et au Royaume-Uni, quarantaine obligatoire pour les voyageurs revenant d'Espagne. L'Espagne qui comptait sur la réussite de la saison touristique. Le secteur représente plus de 12% de la richesse nationale. Alors cette décision britannique, c'est un coup dur. Les touristes français, eux, sont de moins en moins nombreux également, notamment en Catalogne voisine, particulièrement touchée par le rebond de l'épidémie. Mais certains continuent malgré tout de passer la frontière. Léo Téchère.
Et ils arrivent à Portbou, premier village après la frontière. Le train français vient jusque là. Un ami d'Adrien vient d'en sortir.
On a une belle maison avec piscine. On ne fait pas de sortie, pas de resto. On reste au bord de la piscine. On n'a croisé personne, donc globalement, je pense qu'on ne prend pas trop de risques.
En ville, tout de même, quelques touristes et surtout des Français, selon ce garçon de café.
Beaucoup, beaucoup. Tout le monde de Cerver, Banyuls, Portvendres, Toulouse, avec la masque. Il n'y a pas de problème.
Et justement, sur la Plaza del Mercat, un habitué, Fabrice, vient régulièrement de Banyuls pour acheter des cigarettes.
On va aller faire quelques magasins, un peu de plage, un petit resto, et on repart, on prend le train, on rentre à Banyuls vers 4h. Voilà, on respecte les distances, comme en France, mais seulement la police a un peu plus d'autorité qu'en France.
C'est surtout qu'en Catalogne, le masque est obligatoire, même en extérieur, sauf sur la plage. Alan est venu en famille, pas question d'annuler ses vacances, d'autant que selon lui, il y a plus de monde côté français.
Je ne sais pas s'il y a une grande différence entre ici et Cerbère, qui est à 2 km. Mais là, autour de nous, il n'y a personne à moins de 5 mètres, quoi. Enfin, hormis le cercle de la famille, quoi. Donc, je ne me sens pas particulièrement en danger. La ville est relativement vide, on sent que... Enfin, bon, c'est un peu triste d'ailleurs, mais c'est comme ça.
D'ailleurs, c'est plutôt inhabituel pour une fin juillet ici à Portbou, mais de nombreux commerces ont déjà baissé leurs rideaux.
Un reportage à Portbou, en Catalogne, signé Léo Téchère. En Israël aussi, l'épidémie de coronavirus reprend de l'ampleur. Et ces derniers jours, près de 2000 cas quotidiens ont été diagnostiqués. C'est beaucoup pour un pays de 9 millions d'habitants seulement. Des mesures de restriction ont donc été prises. La pandémie qui semble avoir raison cette année de l'Aliyah, l'immigration en Israël des Juifs du monde entier. Pour le moment, deux fois moins de Juifs français ont décidé de faire leur Aliyah. Ils sont chaque année un peu plus de 2000 à rejoindre l'État hébreu. La période n'est pas favorable, mais l'intérêt est toujours là, Alice Roussard.
Dernier jour de quarantaine pour Isabelle, 65 ans, éducatrice récemment retraitée. Elle vient d'émigrer en Israël, à Tel Aviv, et depuis longtemps, elle pensait faire son alia, mais devenir grand-mère au moment où les frontières israéliennes ont fermé aux touristes a accéléré les choses.
Je savais que ma petite fille allait naître en juin. Or, il y a eu ce fameux Covid qui est arrivé avec confinement en mars, fermeture des frontières en mars aussi pour Israël. Au fil du temps, il a fallu intégrer que ça allait peut-être durer dans le temps. Et donc, je me suis rendue à l'évidence qu'il fallait que je fasse mon alia, que c'est maintenant que je dois le faire parce que Je veux avoir cette possibilité de circuler et de me sentir citoyenne des deux pays.
Comme elle, de nombreux juifs français ont ouvert un dossier pour obtenir la nationalité israélienne, pas forcément pour s'installer ici, mais pour faire le voyage, voir leur famille, car le coronavirus a tout chamboulé, explique Yigal Palmor, directeur des relations internationales de l'agence juive.
On devra compter avec une réduction de l'immigration, mais pas une réduction de l'intérêt. On a enregistré plus 400% d'ouverture de dossier.
Il le précise, ouvrir un dossier ne veut pas dire aller à confirmer. Les vols sont encore très limités et la pandémie loin d'être terminée. Jérusalem, Alice Froussard, France Inter.
Nous n'avons pas le droit de nous reposer.
Voilà ce qu'a lancé hier soir Emmanuel Macron aux 200 parlementaires de la majorité réunis au ministère des Relations avec le Parlement pour un dernier pot avant les vacances. Emmanuel Macron venu délivrer un discours pour mobiliser alors que la rentrée s'annonce difficile sous le signe de la crise économique et de la relance. Yael Gauz.
Certains députés ont fait un aller-retour express, car tout près de là, à l'Assemblée, le débat sur le projet de loi bioéthique a déjà commencé, il faut siéger. Emmanuel Macron, micro à la main, flanqué sur sa gauche de Jean Castex et sur sa droite des piliers de la majorité, appelle ses troupes à rester unies et mobilisées. Nous n'avons pas le droit de nous reposer, nous devons enfourcher ces circonstances, allusion à la crise sanitaire et aux derniers mois qu'il qualifie d'éprouvants. Il reste 600 jours, j'ai besoin de vous, lance le président, 2022 en ligne de mire, car nous serons jugés sur nos résultats concrets. Il en profite pour passer un peu de pommade, conscient que les remaniements créent toujours des frustrations. Emmanuel Macron attend de l'unité sur ce nouveau chemin, nouveau, mais il insiste, sans renoncer à nos ambitions premières, sans rien perdre des cicatrices accumulées, et de citer Paul Éluard, nous vivons dans l'oubli de nos métamorphoses. Jean Castex écoute, lui ne fait pas de discours et ne cite pas les poètes, mais il a compris le message, cadeau de bienvenue, à lui de tenir cette majorité soudée jusqu'au bout, alors qu'Édouard Philippe a quitté Matignon sans avoir empêché la dissidence d'une partie de la majorité.
Yael Gauz, qui évoquait l'examen de la loi bioéthique, passe d'armes hier soir à l'Assemblée nationale. L'opposition a demandé une suspension de séance pour dénoncer le peu de membres de la majorité présents dans l'hémicycle, au moment où on comptait en effet la présence de seulement deux députés marcheurs sur 280. Emmanuel Macron, qui s'est ensuite rendu dans un commissariat parisien pour visiter les travailleurs de nuit de la BAC, la Brigade Anticriminalité, le chef de l'État y a annoncé que les policiers travaillant la nuit toucheront une nouvelle prime pour mieux compenser la pénibilité de leur travail. Une enveloppe globale de 10 millions d'euros dont on ne connaît pas encore le détail.
7h08, 250 hectares de pins sont partis en fumée en Gironde.
Un violent incendie a ravagé les alentours du village du Tuzan hier. Il est désormais fixé grâce au travail des 200 pompiers mobilisés et des 4 canadaires déployés. 4 soldats du feu sont légèrement blessés. Un feu si virulent qu'une cinquantaine d'habitants ont dû être évacués dans la commune voisine de Saint-Symphorien hier soir. Reportage France Bleu Gironde, signé Jade Péchira.
Au bord des routes, devant la mairie du Tuzan, toute la journée, toute la soirée et une partie de la nuit, des habitants plus ou moins désœuvrés comme Mélanie.
On nous a appelés en nous disant « ça brûle au Tuzan ». Donc j'ai regardé, effectivement, ça brûlait au Tuzan, au bout de la rue. Ça fait peur. Bon, on a fait partir nos enfants de là, chez des amis.
Catherine, elle aussi, n'a eu que le temps d'attraper le plus important avant d'abandonner sa maison.
On nous a demandé d'évacuer, donc moi j'ai pris mon chat. Et puis je me suis dit, voilà, vaille que vaille, on attend. Mais je pense pas que ma maison soit brûlée. Si elle est brûlée, c'est pas comme ça. Tant qu'il n'y a pas de maisons qui ont brûlé et puis qu'il n'y a pas de victimes, il faut se réjouir de ça, quoi. C'est surtout ça.
À l'arrivée, rien de méchant pour Catherine, si ce n'est de longues heures à attendre. Pour s'occuper, Ouria, 16 ans, a donc trouvé de quoi se rendre utile.
On a aidé les pompiers, on leur a apporté de l'eau, on a aidé la circulation. Enfin voilà, c'était une journée chargée. C'était assez impressionnant, mais on nous a rassurés en disant que ça n'allait pas toucher notre quartier. Du coup, voilà.
Ouria, qui a finalement pu rentrer chez elle cette nuit, le balai des canadaires lui a fini par s'arrêter. Pas celui des camions au sol et des hommes dedans qui ont lutté toute la nuit pour éteindre l'incendie.
250 hectares de végétation ont brûlé hier également dans le Loiret au sud d'Orléans. Là aussi, le feu est désormais fixé. Il n'y a pas de victimes.
Désormais, la violence passe aussi par la surveillance.
Les téléchargements de logiciels espions pour smartphones ont augmenté de 50% pendant le confinement entre février et avril. Chiffre donné par l'entreprise de cybersécurité Avast. À l'origine, présentés comme des outils permettant aux parents d'avoir un œil sur les smartphones de leurs enfants, eh bien, ils sont aussi utilisés par des hommes hommes violents qui épient leur compagne ou ex-compagne. Associations féministes et pouvoirs publics se saisissent du problème. Le Sénat vient d'adopter une loi qui punit de 2 ans de prison et 60 000 euros d'amende l'utilisation de ces logiciels. Thibault Lefèvre.
On les appelle les spies, espiogiciels, stalkerware ou mouchards. Il suffit de naviguer quelques minutes sur YouTube pour comprendre à quel point ils sont faciles à installer.
Bon l'équipe, là comme d'habitude, vous savez, c'est Saphir, il n'y a pas pire. Là, c'est simple, j'ai un partenariat avec Spicy et ça permet en fait d'espionner les téléphones. Là, je parle pas fort parce qu'il y a ma copine qui dort et on va tester Spicy avec elle. Je vais pouvoir espionner son téléphone, savoir ce qu'elle envoie, ce qu'elle regarde sur Internet, qui elle parle. Et là, ça va être un gros dé.
Un gros dé, donc, comme gros délire pour l'influenceur Saphir. Il n'y a pas pire, 277 000 abonnés, mais qui peut avoir des conséquences dramatiques. Marie-Pierre Badré est la présidente du centre Hubertine Auclair. Elle accueille chaque année des milliers de femmes victimes de violences conjugales.
Le problème, c'est dès qu'il y a un logiciel espion, elles sont repérables par le conjoint, quoi. Quand les femmes sont victimes de violences et qu'elles arrivent dans un centre d'hébergement, nous leur demandons de nous donner leur téléphone et qu'on leur en donne un nouveau. Mais quand elles quittent le domicile conjugal, le téléphone, c'est leur seul contact avec le monde extérieur. Donc elles ont beaucoup de mal à s'en séparer. Et donc, elles sont retrouvées facilement.
Selon une étude de 2018 du centre Hubertine Auclair, plus d'une femme sur 5 victime de violences conjugales a été surveillée à distance sur son smartphone par son conjoint ou son ex-conjoint.
Thibault Lefèvre, le fret ferroviaire pour retirer des camions de la route, voilà une des idées issues hier du Conseil de défense écologique. Jean Castex a annoncé notamment la création de 3 autoroutes ferroviaires, Bayonne-Cherbourg, 7-Calais et le retour de Perpignan. Rungis. Enfin, à l'affiche cette semaine, une comédie américaine singulière et très remarquée. The Climb de Michael Angelo Covino sort en salle demain. Il y est question de vélo, d'amitié et d'autres choses encore, Eva Bétan.
La première scène est un petit bijou de drôlerie. L'ascension à vélo d'un col des Alpes par 2 vieux copains américains avec quelques vacheries entre 2 tours de roue. Ni avec toi, ni sans toi se décline aussi sur le mode de l'amitié. Un copain qui s'évertue à piquer les femmes de votre vie, qu'on devrait bouter hors de son existence, et pourtant, amitié toxique, dit-on. Mais tout tient dans la manière dont elle est racontée. Une comédie sinistre, oui, oui, construite en saignette, portée par l'envie folle de cinéma du réalisateur et par notre frémissement de spectateur de ne pas savoir où le film nous mène. Histoire d'une amitié essentielle, mine de rien, et au passage sont revus en mode, c'est l'horreur, les archétypes du mode de vie américain. Thanksgiving, Noël, enterrement de vie de garçon, etc. Si l'on devait chipoter, on relèverait que certaines vignettes comiques n'étaient pas indispensables, mais on n'a pas du tout envie de chipoter. Le film est plus qu'un exercice de style doué, et en plus, un cinéaste américain qui aime la France, Pierre Etex et Gilbert Bécaud ne peuvent pas être mauvais.
The Climb, qui fait donc partie des films qui sortent, il faut le dire, parce qu'il n'y a pas assez de sorties depuis la réouverture des salles. C'est en tout cas ce que dit la Fédération Nationale des Cinémas Français. La fréquentation est en baisse de 70%, notamment du fait des reports de sorties des grands blockbusters américains. Tout ça, il en sera question, Hélène Roussel, avec votre invité à 8h moins le quart.
Bruno Bard, le directeur artistique du Festival du film américain de Deauville, sera avec nous. Merci Kevin Dufraîche, La Route.